Chers auditeurs, chères auditrices, nous n'en avons donc pas fini, et même loin de là, avec Athènes hellénistique. C'est à peine si l'an dernier, nous avions pu atteindre la période d'indépendance politique qui commence en 287-6 avant Jésus-Christ, avec la libération de la cité de la tutelle macédonienne, suite aux déboires du roi Démétrios, fils d'Antigone le Borgne, père d'Antigone Gonatas. Le retard accumulé par rapport au programme affiché devrait m'inciter, penserez-vous peut-être, à brûler les étapes pour arriver enfin à l'histoire des premiers contacts d'Athènes avec la République romaine dans les dernières décennies du IIIe siècle. Sujet passionnant, certes, mais pourquoi se presser? Nous n'avons pas, que je sache, de rendez-vous fixé avec Polybe. Quel que soit notre désir, le vôtre sans doute, le mien assurément, de retrouver le grand historien qui, il y a 2 ans, nous avait puissamment aidé et éclairé sur les causes de la grandeur des Achéens et de leur décadence, pour parler comme Montesquieu, et qui nous avait instruit également sur les autres grandes confédérations hellénistiques, mais là, comme malgré lui, on s'en souvient, tant il haïssait ces Étoliens et ces Béotiens, bien souvent ennemis de sa patrie. On verra qu'il n'avait pas, en réalité, qu'il n'avait guère plus de sympathie à l'égard des Athéniens de son temps, et peu d'estime en tout cas pour leurs dirigeants, à qui il reprochait. La cité. Tout cela méritera bien sûr d'être réexaminé avec soin à la lumière des recherches les plus récentes, mais il ne m'a point paru que ce fût une raison suffisante pour survoler à tire-d'aile les décennies qui nous en séparent encore. En fait, bien loin de vouloir bâcler l'histoire de ce milieu du IIIe siècle qui constitue à mains égards la phase la plus obscure de la période dite hellénistique, je vais faire marche arrière comme un animal qui refuse l'obstacle ou qui du moins veut prendre un peu de recul avant de s'élancer courageusement dans ce trou noir. Toute plaisanterie mise à part, je crois avoir quelques bonnes raisons de revenir pendant 2 ou 3 leçons sur la matière traitée l'an dernier. D'abord parce que l'on ne se baigne jamais dans le même fleuve, le fleuve coule et le baigneur change lui aussi, comme le rappelait il y a peu dans une conférence, ici même donnée sur la fascination exercée par l'eau, ma collègue la philosophe Anne Fagot-Largeau. Car il ne s'agira pas, qu'on se rassure, de répéter purement et simplement ce qui a été dit l'an dernier, mais de faire le point sur quelques-unes des questions les plus controversées, de mesurer le progrès de la recherche ou au contraire de déplorer sa stagnation. Les nouveaux auditeurs me seront peut-être gré de ne pas les mettre en demeure dès la première leçon, de comprendre pourquoi, dans le beau décret pour Callias de Sphettos, la reprise du cycle de la panégyrie d'Athéna Archégétis, autrement dit de la fête des grandes Panathénées, n'eut lieu que tardivement, bien des années après la libération de la ville d'Athènes, pas même en 282, comme le pensent aujourd'hui la plupart des spécialistes, et comme vient de le soutenir, avec des arguments fort dignes de considération, une historienne américaine, qui n'est autre que la fille de l'archéologue Leslie Shear, éditeur de ce remarquable document découvert. Réalisée en 1978 sur le développement des recherches consacrées à l'histoire d'Athènes pendant toute la période hellénistique. C'est la nécessité de réviser, à la lumière du décret de Callias, maintes questions chronologiques, institutionnelles et sociales qui, de proche en proche, amena l'historien allemand de Princeton, Christian Habicht, à tenter, près de 20 ans plus tard, une synthèse nouvelle de l'histoire athénienne entre Alexandre et Auguste. La première, depuis le livre aujourd'hui très exactement centenaire de William Scott Ferguson, Hellenistic Athens, paru effectivement en 1911, ouvrage qu'il est toujours intéressant de consulter, ne serait-ce que pour mesurer le chemin parcouru depuis un siècle. Le livre de Habicht, paru d'abord en allemand en 1995, puis traduit en anglais 2 ans plus tard, publié aux Belles Lettres en 2000 sous le titre Athènes hellénistiques, réédité en 2006, s'est imposé d'emblée comme le guide le plus sûr dans le maquis des problèmes posés par cette histoire en miettes, peut-on dire. Je puis ajouter, non sans quelque fierté, ni surtout émotion, que la traduction française, due essentiellement à Martine Knopfler-Bucher, demeure à ce jour le texte de référence, toutes langues confondues, puisque la mise à jour opérée par l'auteur avec notre concours pour la seconde édition n'a son équivalent exact. Au demeurant dans le champ de l'histoire hellénistique, que ce livre, aujourd'hui indispensable, incontournable, comme on dit trop souvent, soit un monument intouchable. Chaque année, de nouveaux documents, de nouvelles interprétations viennent en effet modifier peu ou prou la manière d'envisager les choses sur tel point particulier, et c'est précisément l'objet d'un cours tel que celui-ci que d'essayer d'évaluer l'intérêt possible de ces apports, le plus souvent très ponctuels. La première question qui, l'an dernier, s'était posée à nous fut de savoir quand faire commencer à Athènes la période hellénistique. Problème certes un peu théorique, puisque la division de l'histoire en périodes a toujours quelque chose d'arbitraire, sauf cataclysme avéré. Mais cela oblige néanmoins à faire ce que on pourrait appeler, dans le sillage de Paul Venn, l'inventaire des différences, pour essayer de percevoir où et quand se situe la ligne de démarcation la plus significative. Fallait-il, sur ce point, s'en tenir tout simplement à la position de Habich, qui en fait est d'une certaine façon celle de Pausanias déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, qu'erronait le début de tous les malheurs des Grecs. Donc Habich, qui avec d'autres bien sûr, voit un tournant réellement décisif dans la défaite d'Athènes face au roi Philippe de Macédoine en 338 à Chéronée. Était-il préférable, au contraire, d'en revenir à l'opinion de Ferguson, qui plaçait ce tournant 15 ans plus tard avec la guerre lamiaque, donienne, dans les affaires intérieures de la cité, après qu'Athènes eût été contrainte en 322 à la capitulation devant le régent Antipatros. Rappelons au passage que la disparition du conquérant est bel et bien la date retenue du fait de ses conséquences, on peut dire, universelles pour le manuel de base que reste l'histoire politique du monde hellénistique de l'historien français Édouard Ville. Mais ce qui est valable à l'échelle du monde, ou du moins du vaste empire d'Alexandre, n'est pas nécessairement applicable à chacune des cités prises séparément. Dans le cas d'Athènes, qui est particulier, bien sûr, au vu de la taille et de l'importance hors norme de cette cité ayant longtemps eu vocation à l'Empire, il m'a paru judicieux et utile de proposer une coupure qui tienne mieux compte des réalités proprement attiques. Sans méconnaître, comment le pourrait-on, la gravité des événements de 338 et de 323, j'ai fait valoir quelques arguments pour privilégier un moment laissé un peu dans l'ombre, soit l'année, ou plus précisément même l'automne, 335, date qui a peut-être comme premier avantage, à mes yeux tout au moins, de ne pas faire commencer l'histoire d'Athènes hellénistique avec une défaite ou une capitulation, mais au contraire par un succès inespéré, à double tranchant, il est vrai. Au surplus, il nous est apparu que si Chéronée avait incontestablement constitué un très sérieux revers pour la politique athénienne, celle que prônait en particulier Démosthène et ses amis, cette glorieuse défaite n'avait en aucune façon mis en péril les bases de l'État athénien. Sa constitution ne fut pas modifiée, toutes ses institutions demeurèrent inchangées, même sa classe politique s'appuyer sur une affirmation imprudente de Pausanias dans le passage 1.25. Athènes conserva intacte tout le noyau dur de son empire maritime, sa domination sur les trois îles de Skyros, Imbros et Lemnos, sa tutelle sur Delos, et même son occupation militaire et agraire de Samos, qui résultait pourtant d'un coup de force perpétré en 366 au mépris du droit des gens, ne fut pas remise en question par le vainqueur macédonien. On a pu voir d'ailleurs que Philippe se contenta de signer une paix eirénée avec les Athéniens et qu'il ne les obligea nullement à conclure une alliance militaire bilatérale, même si tout récemment, je l'avais dit, un historien anglo-saxon, Ian Worthington, dans ce volume de Mélange, a prétendu avoir retrouvé le texte même de cette prétendue alliance bilatérale, alors que le texte épigraphique en question doit rester, de toute évidence, ce qu'il est en réalité de l'avis des meilleurs spécialistes, un traité multilatéral, une alliance générale, à laquelle certes les Athéniens furent bel et bien forcés d'adhérer, puisque les deux fragments de cette inscription proviennent de l'Acropole d'Athènes, mais sans que cela portât atteinte, le moins du monde, à leur souveraineté intérieure et à leurs droits reconnus sur un certain nombre de possessions insulaires. S'il est donc nécessaire de relativiser quelque peu les effets négatifs de Chéronée, sans tomber pour autant dans les vues assez paradoxales de ceux qui voudraient faire de cette bataille perdue une défaite providentielle pour Athènes du point de vue économique, j'y reviendrai, c'est que la défaite de 338, chose remarquable, n'a pas apporté non plus aux Athéniens le seul accroissement territorial que les modernes croyaient tout en... remarquable dans le sillage de Pausanias, dans un autre passage de son œuvre, 1.34, car ce n'est pas Philippe en 338, ainsi que le prétend Périégète, qui rendit à Athènes le territoire d'Oropos, convoité sans succès depuis 366 par les Thébains. Comme j'ai pu le mettre en lumière sur la base d'indices épigraphiques convergents, c'est le jeune Alexandre qui, trois ans plus tard, au lendemain de la destruction de Thèbes, fit aux Athéniens ce cadeau d'autant plus somptueux qu'il était, en pareille circonstance, tout à fait inespéré. Or, cette récupération de l'Europie, je vous rappelle sa position en face de l'Eubée, à l'automne 335, eut des répercussions en chaîne et de grande portée sur le plan financier notamment. Aussi ai-je été amené à émettre l'opinion que le véritable commencement pour Athènes de la période hellénistique ne faisait qu'un avec cet événement, jusque-là incorrectement daté, dans la mesure où justement il me semble témoigner d'une situation nouvelle, inédite, dans l'histoire de la cité, grâce à la clémence stratégie à la veille du débarquement en Asie. Les Athéniens échappaient de justesse à la catastrophe qu'ils avaient en quelque sorte attirée sur eux en prenant le parti de soutenir leurs alliés d'hier, à Chéronée, ces Thébains révoltés contre Alexandre, puis aussitôt attaqués par lui au terme d'une expédition foudroyante qui devait conduire, on le sait, à l'anéantissement de la prestigieuse cité de Thèbes. Mais simultanément, par la volonté de ce même roi de Macédoine, les Athéniens tiraient profit à leur corps défendant du malheur de Thèbes en étant autorisés à remettre la main sans coup férir sur un territoire que les Thébains leur avait disputé depuis un demi-siècle. Autrement dit, le sort d'Athènes, en cet automne 335, s'était trouvé entièrement entre les mains d'un roi. Or, c'est précisément cela, cette dépendance pour le pire, mais aussi parfois pour le meilleur, qui me paraît caractériser une cité hellénistique. Bien plus qu'une défaite, fut-elle retentissante comme celle de Chéronée, car Athènes en avait connu d'autres dans son passé, ou qu'un soulèvement à l'issue dramatique comme celui des années 323-322. Mais il ne sert à rien d'avoir raison, à supposer que ce soit le cas en l'occurrence, si l'on a raison tout seul. L'an dernier, peu son chemin, recevant notamment l'approbation explicite d'un certain nombre d'érudits anglo-saxons et grecs, ou même français, comme l'historien Patrice Brun, étant adopté aussi après une période d'hésitation ou mieux d'attente par Christian Habicht lui-même. Mais c'est une chose que de faire accepter ce réajustement chronologique, qui me paraît aujourd'hui à peu près incontestable. Je ne sache pas en tout cas qu'il ait été remis en question depuis qu'il a été proposé et rendu public, voici maintenant une dizaine d'années. C'en est une autre, assez différente, vous le comprendrez aisément, que de vouloir faire de cette année 335 un tournant de l'histoire athénienne, alors que jusqu'ici, on y voyait plutôt une année de transition, en quelque sorte, entre deux épisodes à première vue plus importants de l'actualité, le coup de tonnerre que fut en 336 l'assassinat du roi Philippe, et deux ans plus tard, en 334, la traversée de l'Hellespont, du détroit des Dardanelles, réalisée par son successeur, point de départ de la grande épopée orientale qui pourra Je veux dire, sur la question de savoir quelle place donner à l'affaire d'Oropos dans l'essor athénien des années suivantes, il y a encore beaucoup à faire pour convaincre la corporation des historiens. Car l'ombre projetée sur toute cette période par la bataille de Chéronée continue à faire écran, empêchant la plupart des chercheurs de mesurer les changements survenus seulement 3 ans plus tard, après 335. Pourtant, là aussi, je crois sentir quelques frémissements annonciateurs, peut-être, d'un changement d'attitude qui laisse espérer que seront de mieux en mieux perçues la singularité, l'importance de ce moment clé dans le développement de la cité d'Athènes, placée comme à l'abri, pendant un temps, des tumultes de la conjoncture politico-militaire. Le problème, en réalité, revient à s'interroger une fois encore sur la pertinence de l'appellation « époque de Lycurgue » appliquée à toute la période allant de 338 à 323. L'expression est commode, tout à fait usuelle, on l'avait constaté, et il serait d'autant plus vain de vouloir la remettre fondamentalement en question que l'orateur Lycurgue joua certainement et à plusieurs niveaux un rôle de premier plan dans ce renouveau athénien sous le règne d'Alexandre. Mais cela étant admis, il faut prendre conscience de la nature très particulière de notre source principale pour reconstituer les principales étapes de la carrière de Lycurgue. En effet, l'essentiel, pas la totalité, heureusement, de ce que nous savons de ce personnage vient d'un document qui a été rédigé dans des circonstances assez exceptionnelles et qui a connu un destin également peu commun. Car on se souvient peut-être que c'est en 307, au lendemain de la chute du président philosophe Démétrios de Phalère, dont nous aurons à reparler un peu la semaine prochaine, que l'homme politique Stratoclès de Diomeia, appelé à devenir le partisan inconditionnel des princes libérateurs, le futur roi Antigone et son fils Démétrios Polurcète, qui fit voter un décret honorifique pour faisant de lui le parangon de la démocratie en lutte contre le pouvoir arbitraire du roi Alexandre et le modèle de toutes les vertus civiques, ce qui était une manière habile d'accabler le président déchu, appelle ainsi Démétrios de Phalère, qui lui avait été à la dévotion de la monarchie macédonienne, représentée alors par l'intraitable Cassandre, fils d'Antipatros, le régent d'Alexandre. Et tout législateur qu'il était, portant effectivement le beau titre de nomothétès, ce philosophe, placé par l'occupant à la tête de la cité, passait pour avoir eu une vie plutôt déréglée, anomothétique, anomothétos bios, comme disait plaisamment l'historien contemporain Douris de Samos. Il eut en tout cas la passion des couronnes honorifiques et des effigies équestres. Quel contraste avec l'austère Lycurgue, qui certes n'avait pas manqué de se voir décerner de son vivant déjà quelques couronnes de feuillage, voire d'or. Le décret voté à titre posthume en l'honneur de Lycurgue comporte donc, en 307, si l'on peut dire, une forte valeur politique ajoutée. D'autre part, ce document a bénéficié, on l'a laissé entendre, d'une diffusion particulièrement favorable, car son impact sur l'historiographie a été beaucoup plus, aurait été beaucoup plus faible et forcément tardive si il était parvenu jusqu'à nous par la voie traditionnelle, habituelle pour ce genre de document. De ce décret, qu'il aurait d'ailleurs été malaisé alors de dater exactement, puisque le nom même de l'archonte éponyme y avait disparu au sommet mutilé de la stèle, dont d'autres parties aussi, vous le voyez, sont manquantes, et même cruellement manquantes, et le sont restées malgré un beau raccord que fit plus tard l'épigraphiste Adolf Wilhelm en y rattachant une série de couronne anonyme qui devait figurer au sommet de, ou au bas de la stèle. Mais justement, le décret en question, couronne mise à part, est connu depuis toujours, peut-on dire, grâce à son insertion dans un texte transmis avec les œuvres morales de Plutarque, les vies des 10 orateurs attiques, c'est le traité 55, plume du philosophe de Chéronée, mais n'en est pas moins fort intéressant pour les historiens d'Athènes. Or, c'est ce document qui a servi de base à la biographie donnée là de l'orateur Lycurgue, et donc de manière indirecte à toute la tradition biographique lycurguéenne jusqu'à nos jours. Il ne s'agit certes pas d'une source médiocre, puisqu'elle a tout de même l'incontestable mérite de remonter à l'Antiquité et même à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Étant l'œuvre, on s'en souvient, donc de ce Stratoclès qui, dans sa jeunesse, avait pu connaître et fréquenter encore Lycurgue. Mais ce texte n'en doit pas moins être utilisé avec beaucoup de précautions, compte tenu justement des arrière-pensées politiques de son auteur, sans parler du penchant de Stratoclès pour le pathétique, si cet homme ne fait qu'un, comme il semble, avec l'historien Stratoclès, mentionné par Cicéron dans un passage du Brutus, à propos des récits contrastés que l'on connaissait alors de la mort du grand Thémistocle. Si l'on doit faire un usage critique de cette source ancienne, c'est essentiellement pour deux raisons qui on appelait les grands honneurs, les mégistai timai, avait une forte tendance à concentrer toute l'attention sur l'honorandus, à se focaliser, comme on dirait aujourd'hui, sur un seul personnage, en passant sous silence les autres acteurs, si importants fussent-ils. Cette tendance, mieux voudrait dire même ce principe, car c'est véritablement la loi du genre, ne fait aucun doute maintenant que l'on connaît une dizaine de décrets de ce type, s'échelonnant de la fin du IVe siècle au début du IIe siècle avant notre ère. Rien ne le montre mieux que le fait suivant, dont on peut juger par la fameuse stèle pour Callias de Sphétos. En effet, la publication de ce décret a fait voir que si le décret antérieurement connu pour son frère, Phaidos de Sphétos, ne faisait pas la moindre mention de Callias, la chose a paru même si étonnante que certains y ont vu l'indice que les deux frères avaient dû se ranger lors des événements de 287-6, sur lesquels on reviendra, dans des camps opposés, l'un soutenant les intérêts du roi macédonien, l'autre prenant fait et cause pour le peuple insurgé. Mais cette interprétation ne tient pas. On l'avait vu l'an passé et on aura l'occasion de le voir encore. En lisant le décret pour Lycurgue, il faut donc se garder soigneusement de croire que cet orateur que l'on voit agir tout seul, décider de tout, n'avait point d'alliés, de collègues, de rivaux également, peut-être aussi entreprenants que lui, ou même plus influents, plus habiles, plus applaudis que lui à la tribune de l'Assemblée du peuple. Le décret rappelle, par exemple, qu'Alexandre, très remonté, vous avez donc le texte aussi chez distribué, Alexandre, très remonté contre Athènes après avoir pris et détruit la ville de Thèbes, exigea des Athéniens terrorisés l'extradition de Lycurgue, considéré comme le fer de lance de l'opposition à la Macédoine. C'est la phrase « Ex et instantans Lycurgon os enant. » Noms d'orateurs, les uns fort illustres, comme Démosthène, Hyperide, les autres beaucoup moins connus de nous, ou sortant peu à peu de l'ombre, grâce à l'épigraphie, comme Moiroclès d'Eleusis, très actif dans son dème, ou Diotimos de Ionumon, stratège pour qui Lycurgue lui-même, d'ailleurs, fit voter en 334-3 un décret honorifique au témoignage de son biographe, le pseudo Plutarque. Et encore, cette liste de 8 ou 9 noms n'énumère-t-elle que les ténors du camp, sinon du parti opposé à la Macédoine? Ce n'est pas le catalogue des plus hautes personnalités politiques de la période immédiatement consécutive à Chéronée. Il faudrait à tout le moins ajouter le nom de Démade, sans doute la figure la plus en vue dans Athènes jusqu'à la mort d'Alexandre, au point qu'il ne serait nullement injustifié de qualifier ces années-là d'époque de Lycurgue et de Démade, le faiseur de paix en 338, l'homme surtout en qui il est permis de voir le principal agent du salut d'Athènes dans la dramatique conjoncture de l'automne 335 et le génial inspirateur d'Alexandre, selon mon hypothèse, pour l'attribution inopinée du territoire d'Oropos aux Athéniens là, en cette année précisément. Mais voilà, autant Lycurgue fut en quelque sorte l'enfant chéri de l'histoire, autant Démade devait pâtir de ses choix politiques, en dépit d'un dévouement peut-être équivalent à la cause athénienne. Au lieu d'être pieusement conservé, le décret voté en son honneur et de son vivant, dans l'euphorie, comme on peut le penser désormais, du succès inespéré de son ambassade de 335, fut aboli dès 323. Sa statue, la première d'un personnage civil, bien avant Lycurgue, sans parler de Démosthène, qui eut été dressé sur l'agora, fut renversé, son destin de réprouvé, de traître, fut définitivement scellé, malgré un éphémère retour en grâce entre 322 et 319, sans gloire, tout à l'opposé de la mort édifiante de Lycurgue, passant de vie à trépas après avoir fourni une ultime preuve de son honnêteté sans faille. En venant, moribond, nous dit son biographe, pour brandir ses comptes, exact à l'obol près, bien sûr, à la face d'un misérable accusateur, devant les 500 membres du conseil subjugués par tant de grandeur d'âme. Il faut donc lire avec un peu de circonspection le décret post-mortem en l'honneur de Lycurgue. Ce n'est pas seulement à cause de cet éclairage unilatéral qui laisse dans l'ombre tout ce qui pourrait diminuer la stature, assurément considérable, du personnage, c'est aussi que la chronologie est assez peu rigoureuse, ne serait-ce qu'en raison du fait que, comme souvent dans ce type de document, il n'y a pas un récit linéaire, mais un regroupement par genre, kata ethnos, pour parler le langage des inventaires grecs, d'où certains chevauchements, pas toujours aisés à déceler, des télescopages plus ou moins délibérés. L'un d'eux est particulièrement choquant aux yeux des historiens et qui a été dénoncé depuis longtemps, évoquant Alexandre, on l'a vu au moment de la destruction de Thèbes et de la demande d'extradition des orateurs de l'opposition. Stratoclès, l'auteur, n'hésite pas en effet à présenter le jeune roi comme l'homme qui avait soumis l'Asie entière. Le roi a soumis l'Asie entière à Passan Menten Asian et prétendait régenter tous les Grecs en commun. anachronisme patent, puisqu'en 335, Alexandre n'était même pas passé en Asie mineure et qu'il était très loin encore de dominer sur l'ensemble des cités grecques. Mais le plus gênant, c'est le flou chronologique qui entoure la carrière de Lycurgue en tant que qu'il fut tamias, trésorier, pour trois pentétérides, c'est-à-dire pour trois périodes de 4 ans. Pendant longtemps, dans la conviction que Lycurgue avait été au sommet de l'État dès après la défaite de Chéronée, on a fait commencer cette dodécaïsie, ces 12 ans, le plus tôt possible, en 338, ce qui en fixait la fin en 326. Cela impliquait donc que Lycurgue n'aurait déjà plus été en fonction quand il décéda en 324. Mais comment expliquer alors qu'il ait dû, si l'on en croit son biographe, procéder à une reddition de comptes à la veille de sa mort? C'est pourquoi, depuis une étude qui a fait date de l'épigraphiste David Lewis en 1959, on abaisse le plus souvent la date du début de cette haute magistrature à l'année 336, ce qui permet d'atteindre, fort commodément, l'année 324 pour la fin des trois pentétérides successives. Telle est l'opinion de Christian Habich dans Athènes hellénistique, qui observe toutefois qu'au témoignage même de la vie de Lycurgue, sinon du décret qui a délibérément gommé cela comme un détail insignifiant, l'orateur ne put exercer cette charge directement que pendant une seule pentétéride, en raison d'une loi préalablement votée qui faisait défense à l'élu de rester à la direction des finances plus de 5 ans. Mais pleio pente eton, le texte est toujours donc dans la vie des 10 orateurs. En réalité, disons plutôt 4 ans, le biographe n'ayant pas bien saisi la signification exacte, pour ainsi dire technique, du terme pentétéris, qui prend en compte, on le sait, l'année de départ et l'année d'aboutissement d'un intervalle de 4 ans. C'est donc une difficulté bien réelle que l'on croit pouvoir cependant contourner sans trop de mal en adoptant l'explication du pseudo Plutarque lui-même. Lycurgue aurait en effet fait inscrire à sa place l'un de ses amis, Ton Philon Epigrapsamenos Tina. Je crois qu'il est là. Parce qu'il aurait fait de cet homme, ce remplaçant, une espèce d'homme de paille, pas même digne de passer à la postérité. Donc un peu étrange pour la démocratique Athènes. On se croirait bien plutôt au Kremlin, avec Poutine mettant Medvedev à sa place et gardant l'essentiel du pouvoir. Et puis, ce sont au moins 2 amis que Lycurgue aurait dû ainsi sélectionner, puisque le premier, lui non plus, n'aurait pas pu rester en poste plus d'une pentétéride. On peut donc se demander s'il n'y a pas là, en réalité, une reconstitution historique a posteriori visant à mettre toute cette phase de l'histoire athénienne déterminée et constant dès 336 d'Alexandre, maître du monde ou futur maître du monde, et cela jusqu'à son dernier souffle, en 324, pendant exactement 3 pentétérides, car il était idéologiquement important de faire voir que la période de prééminence de Lycurgue avait été aussi longue que celle pendant laquelle son principal rival avait été le maître incontesté de la tribune, soit exactement 12 ans, comme cela ressortait du discours perdu Uper tes dodecatias, sur la période de 12 ans, cette apologie que Demade avait prononcée en 323 pour justifier toute sa politique depuis 335. Dès lors, ce qu'il importerait de déterminer avant tout, c'est le moment exact de la pentétéride durant laquelle Lycurgue assura à titre personnel la direction des finances de l'État, sans tenir compte de l'épisode hautement dramatisé survenu juste avant sa mort, puisque Lycurgue a très bien pu devoir justifier in extremis des dépenses faites dans une autre magistrature qu'il aurait assumée en 325-4, dernière année. En termes différents, dans la constitution athénienne, en effet, les seules magistratures, c'est ce passage de la constitution 43, les seules magistratures qui n'obéissent pas au rythme annuel, mais sont quadriennales, comme le fut à l'évidence la dioikesis ton krematon, confiée à Lycurgue, ont un lien avec le rythme pentétérique des grandes panathénées, allant d'une célébration à l'autre de cette fête. Ek panathénaion, es panathénaia, comme le dit la constitution d'Athènes de l'école d'Aristote. C'est le cas non seulement des athlothètes, des quatre collèges de trésoriers, c'est dit en autre passage de la constitution, mais aussi de magistrats à première vue sans rapport avec la gestion des trésors sacrés, le trésorier du théoricon, l'indemnité de spectacle, et le trésorier des fonds militaires, otamias ton stratioticon, sans parler de l'épimélète des fontaines. On peut donc supposer qu'il en alla de même dès sa création de la magistrature occupée par Lycurgue, d'autant plus que le décret de Stratoclès met lui-même en évidence le lien étroit de l'activité financière de Lycurgue avec le trésor de la déesse sur l'Acropole. Sous son administration, comme le confirment les inventaires épigraphiques, d'importantes consécrations publiques sont faites à Athéna, notamment cette statue de victoire en or massif, Nikai. Pentétiride, géré en son nom propre, doit être établi en fonction du calendrier des grandes panathénées. Une célébration eut lieu en 338, mais beaucoup trop tôt pour qu'on puisse y placer la première pentétiride, puisque nous sommes à peu près à l'époque de Chéronée. Il s'agit donc forcément de la célébration suivante, celle de juillet 334. Dès lors, c'est bel et bien après le tournant de 335, dans la distribution dianomée du revenu général, la koiné prosodos, selon les termes même du décret de Stratoclès, en établissant une sorte de clé de répartition qui aurait été ensuite respecté par ses deux successeurs, donc de 330 à 326, peut-être le riche démocrate Xénoclès de Sphétos, et de 326 à 322, un autre, jusqu'à la capitulation d'Athènes. Je trouve une confirmation de cette chronologie dans le fait que l'autre figure emblématique de l'époque, Démade, obtint lui aussi une magistrature financière de premier plan avec la charge de trésorier des fonds militaires, donc ce tamias ton stratioticon, comme l'atteste, oui, ça c'est le passage sur les Nikai holocrussoi, et ensuite l'inventaire reconstitué en 1962 à partir de trois fragments connus. Or, il se trouve que Patrice Brandt, dans son étude récente sur l'orateur Démade, a montré que c'est précisément lors des grandes panathénées de 334 que cet homme politique dut être élu à ce poste, honneur que son rôle essentiel dans la récupération de l'Europie, quelques mois plus tôt, justifiait pleinement, comme il apparaît aujourd'hui. Faut-il s'étonner de voir les deux adversaires en fonction durant la même période avec des compétences en partie identiques ? Non, si l'on a en mémoire l'Athénaïon Politeia aristotélicienne, elle est encore ici dans le chapitre, dans son chapitre 49. Non, je ne l'ai pas ici. Je vous le résume. C'est que le conseil, d'après Aristote, s'occupe aussi de la fabrication des victoires et des prix destinés aux panathénées de concert avec le trésorier des fonds militaires. Passage donc très important. Ce qui s'est donc passé en 334, c'est que le Conseil s'est déchargé, à titre exceptionnel, de cette compétence sur un membre sortant de son sein, en créant pour lui une fonction inédite et absente et pour cause du tableau des magistratures donné par l'école d'Aristote. Mais cette création, bien entendu, ne modifie en rien les compétences du tamias ton stratioticon. D'où l'obligation faite à Lycurgue et à Démade de collaborer. Il est piquant de constater que, d'après l'inventaire de l'Acropole, que vous avez sous les yeux, c'est Démade que les trésoriers d'Athéna, c'est de Démade que ces trésoriers reçurent les objets dorés destinés à la confection des victoires en or. Mais la tradition historiographique a gommé le nom de Démade en cette affaire, ne retenant une fois de plus que celui de Lycurgue, comme on le voit bien encore chez Pausanias, qui, au détour de son passage dans le cimetière public d'Athènes, évoque l'activité du grand homme qui, dit-il, fit faire du matériel pour la procession de la déesse, fit exécuter des victoires en or, etc., etc. Kai Nikai Crusas. C'est un emprunt presque littéral au libellé du fameux décret de Stratoclès qui a ainsi imposé sa vision de l'époque lycurgéenne aux érudits de l'Antiquité comme aux historiens modernes et jusqu'au plus contemporain, ainsi que le prouvent quelques travaux tout récemment publiés. Très caractéristique à cet égard est un gros article publié en 2010 dans l'American Journal of Philology par l'historien Edmund Burke, qui se propose d'expliquer l'accroissement sans précédent des revenus d'Athéniens à l'époque de Lycurgue, atteignant un montant annuel au moins quatre fois supérieur à celui de l'époque précédente, dépassant même, et de beaucoup, les revenus de l'Athènes impériale du temps de Périclès. Il ne s'agit pas ici de discuter ces chiffres, fournis avec une certaine complaisance par le décret de Stratoclès, toujours lui, mais d'observer à quoi aboutit la conviction que Lycurgue réussit cette prouesse financière dès le surlendemain de Chéronée, puisqu'il aurait entamé ses réformes à partir de 336 déjà, sinon plutôt encore, conformément à l'opinion la plus courante. La cause principale de cet enrichissement serait le développement de l'activité commerciale au Pirée, qui aurait bénéficié très largement de la paix imposée aux Athéniens par la monarchie macédonienne. Autrement dit, la défaite de Chéronée aurait été une vraie bénédiction pour Athènes. À quoi s'ajouterait, et l'auteur insiste beaucoup là-dessus après un long intermède sur l'histoire financière de la cité dans les décennies antérieures, j'ajouterais donc la sagesse du peuple athénien lui-même, qui aurait su museler toute velléité revancharde des guerrières chez ses dirigeants, trop conscient qu'il était, lui, le démos, parfaitement raisonnable, des bienfaits économiques de la paix. Ce rapide résumé est à peine caricatural, certes. En tout cas, l'auteur ne s'est pas demandé si l'augmentation spectaculaire des ressources d'Athènes à l'époque de Lycurgue ne serait pas à mettre en relation, un peu aussi, avec quelque accroissement territorial. Burke évoque vaguement la mainmise sur Samos en 365, son exploitation par les colons athéniens à partir de 350 surtout, mais il n'a visiblement pas eu connaissance de la remarquable inscription que nous avions commentée l'an dernier, inscription samienne publiée en 1997 et qui atteste que vers 346, la population athénienne de l'île devait s'élever à quelque 10 000 citoyens. Or, il paraît très probable que les Athéniens, à qui cette possession, on se rappelle, ne fut nullement contestée en 338, redoublèrent d'efforts après Chéronée pour en tirer le maximum de revenus, sans égard pour les anciens habitants de l'île. Et c'est bien pourquoi la crainte justifiée qu'ils eurent, dès 324, de perdre Samos, les conduisit au soulèvement contre le pouvoir macédonien. De cela, pas un mot dans le tableau idyllique procédé par Edmund Burke. Silence total également sur la récupération d'Oropos, quand bien même la date traditionnellement admise pour cet événement, soit 338, aurait dû être alléguée, en bonne logique, à l'appui de la thèse qu'il défend. L'historien américain a visiblement ignoré l'existence d'un débat là-dessus. Et s'il avait pu mesurer l'importance que cette récupération, survenue en 335 seulement, dut avoir pour toute la classe politique athénienne, pour Démade de l'orateur comme pour Lycurgue l'administrateur, peut-être aurait-il été moins enclin à mettre la nouvelle prospérité d'Athènes sur le compte de la sagesse populaire, tirant profit d'une défaite providentielle. Car ce nouveau territoire, cette Néa Cora, cette Néa Cora procurait à la cité des ressources inédites. On a vu que la loi sur les petites panathénées, examinée aussi l'an dernier, fait précisément mention d'une pentecostée, ou taxe du cinquantième, sur le transit des marchandises. Et elle montre clairement, en dépit des difficultés qui subsistent dans ce texte mutilé du fragment supérieur connu depuis 1959, que d'autres taxes encore étaient prélevées sur l'Europie, en relation avec les ressources naturelles, notamment forestières, de ce pays très richement boisé. L'importance de cette loi et des témoignages épigraphiques en général n'a pas échappé à l'auteur d'une autre étude toute récente sur la période de Lycurgue, l'anglais Peter Rhodes, autorité reconnue de longue date dans le domaine des institutions athéniennes. Dans cet article paru également en 2010, Mélange Osborne, sous le titre « Lycurgian Athens », notre collègue entend défendre l'appellation d'époque lycurgéenne en dépit des réserves exprimées naguère par Patrice Brun dans un mémoire de 2005 dont nous avions fait état, qui met en doute que Lycurgue, sur le plan législatif notamment, ait occupé la place prépondérante que lui attribue la tradition. Rhodes montre que si tous les nomoi, lois de cette époque, ne peuvent effectivement pas lui être rapportés à Lycurgue, un nombre appréciable de psephismata, de décrets, se trouve avoir sans conteste possible Lycurgue pour auteur. Compte tenu par ailleurs de son activité financière et édilitaire exceptionnelle, on est donc fondé, selon lui, à considérer qu'il a bel et bien été la figure de proue à Athènes durant le règne d'Alexandre. Oui, sans doute. Mais à une condition, cependant, que l'on définisse mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici le point de départ de cette prééminence lycurgienne. Car sur cette question, Rhodes est demeuré dans le vague, parlant du milieu des années 330, sans dire s'il adoptait ou non la date traditionnelle de 336 pour l'entrée en fonction du personnage à la tête de l'administration financière, la dioikesis ton krematon. Or, il ressort de son étude elle-même que les 7 décrets attribuables en toute certitude à Lycurgue sont tous, sans exception, postérieurs à 335. Mieux, l'historien britannique se déclare tout disposé à accepter le réajustement opéré par son compatriote Stephen Lambert à propos de l'inscription fragment IG de 328, qui témoigne que Lycurgue entra à la boulée au Conseil des 500, non pas en 336-5, Arconta de Pitodélos, comme on l'avait admis, mais seulement sous Euainetos, dont le nom convient très bien à la lacune, et qui est l'Arconte de 335-4. On sait d'autre part qu'il y eut, juste avant 334, une réforme dans la procédure d'octroi de la citoyenneté aux bienfaiteurs étrangers, et l'on verra au séminaire qu'une loi, certes un peu méconnue jusqu'ici, lui est élaborée au sujet des honneurs à rendre aux membres les plus méritants du Conseil. Il est dès lors permis de s'étonner un peu que notre excellent collègue n'ait pas fait un pas de plus en acceptant de bon cœur que la datation, à l'automne 335 précisément, de la récupération de l'Europie, avec toutes les conséquences qu'elle a entraînées pour l'Athènes de Lycurgue. Il mentionne certes « the recovery of Europos », mais il reste muet sur la date à attribuer à cet événement majeur. Et il ne donne pas à son lecteur le moyen, mis cependant en évidence depuis 2001, de faire le lien entre cet accroissement territorial inespéré et la réforme de l'Éphébie en vertu d'une loi de 335-4 précisément, sans parler de la fameuse loi sur les Panathénées qui doit dater, elle aussi, de la même année. Cette réticence à accepter des conclusions aujourd'hui à peu près obvies, je ne vois qu'une façon honorable de l'expliquer, c'est par l'attachement proclamé de fait dans la note liminaire de l'article à la mémoire de son maître, le très regretté David Lewis. En effet, c'est Lewis qui avait publié en 1939 ce fragment supérieur très important de la loi sur les petites panathénées, mais sans parvenir à comprendre ce qu'était la néa et la pentecostée mentionnée quelques lignes plus loin, qu'on tirait de cette néa dans les nouveaux morceaux du document. Ce fut le mérite de Louis Robert, de notre Louis Robert, si je puis dire, de faire apparaître la relation de l'inscription avec la mainmise sur Oropos. Événement que l'épigraphiste français, certes, datait toujours, comme tout le monde alors, de l'année 338. Mais cette identification palmaire du nouveau territoire Néa-Hora à l'Oropi, des érudits ont cru pouvoir la contester en proposant des solutions de rechange, toutes plus absurdes, il faut bien le dire, les unes que les autres. Aussi, voit-on Rhodes lui-même marquer une hésitation à l'accepter dans sa réédition de la loi sur les Panathénées dans son recueil historique de l'inscription historique de 2003. Loi qui mérite assurément l'appellation de Lycurgéenne, l'auteur de la loi étant un très proche allié de Lycurgue. Il serait donc grand temps, me semble-t-il, de tirer l'échelle, en quelque sorte, en mettant fin à ces atermoiements ou même à des retours en arrière injustifiés, comme on en a des exemples, tout récemment encore, dans un volume collectif paru en Italie, mais je passe sur ce point ici, à propos d'une très importante et antérieure loi de 374, où l'on voit la théorie antérieure à Louis Robert être reprise sans succès, un peu en vain. Notons enfin, pour conclure, sur une note plus encourageante, qu'il y a des signes indiscutables chez les savants anglo-saxons eux-mêmes de l'adhésion progressive à l'idée que cet événement pourrait constituer un tournant majeur dans l'histoire d'Athènes après Chéronée. Dans ce mouvement, je soulignerai le rôle joué par Stephen Lambert, spécialiste de l'épigraphie attique de cette époque, qui a d'emblée donné un écho favorable aux résultats de nos recherches. C'est par lui manifestement que d'autres en ont été informés et qu'ils les ont adoptés tout en ignorant parfois le nom de leur auteur. Ainsi, constate-t-on que dans sa publication on voit dans une publication de 2008 de certain nombre de décrets fragmentaires d'Athènes que pour deux de ces morceaux, la date de 335 est indiquée comme terminus, si vous voulez, comme terminus postquem ou comme verrou chronologique vers le haut. D'abord, pour un morceau, tous ces morceaux sont petits, concernant visiblement qui sont les restes d'une loi relative à des questions religieuses, comme cela découle notamment du mot cosmos ici, indiquant la parure d'une divinité. On en avait eu tout à l'heure un exemple pour Athéna. Or, les caractéristiques paléographiques sont celles d'un grand texte législatif de l'époque de Lycurgue, où Lycurgue intervient lui-même, numéro 333, et où la mention d'Amphiaraos, divinité oropienne, prouve que ce document est postérieur, vous voyez Amphiaraos ici, est postérieur, c'est le dieu d'Oropos, à 335, selon notre chronologie. Ensuite, second exemple, le fragment numéro 22, toujours dans ce recueil, qui se rapporte certainement à l'éducation, et le mot « éphéboi » est encore conservé, vous voyez que ce sont des bribes réellement, or, la réunification de l'Éphébie, on l'a rappelé il y a un instant, se trouve associée directement ou indirectement au nom de Lycurgue, et c'est pourquoi Wallbank indique la date circa 335. Encore aurait-il fallu préciser que cette loi a été prise très précisément à l'automne 335, juste après la mainmise sur l'Europie. Un dernier indice, tout récemment mis en valeur, est venu renforcer de manière bienvenue, quoique un peu inattendue, le tournant de 335. Je sais pas ce que je... un petit livre paru l'an dernier, mais dont l'élaboration a été assez longue. La chercheuse américaine Elizabeth Meyer a renouvelé l'étude d'une catégorie bien particulière de documents administratifs connus sous le nom de catalogue de patères d'argent, en anglais Fialy Inscriptions. Ces stèles, très fragmentaires, on en a un spécimen ici, provenant de l'acropole, notamment une grande plaque au pistographe, enregistrent en effet des consécrations de fiales, c'est-à-dire des coupes basses, dépourvues de pieds, d'un poids constant, dans leur poids stathmos, 100 drachmes, environ 430 grammes, offertes par des personnes résidant en Attique, et toujours pour la même raison, le fait d'avoir littéralement échappé, apophoigaine, à un ou plusieurs citoyens athéniens. Voilà un type de, un exemple de ces fiales, modèle graphique. On y lit par exemple ici, l'usis empeiraiei, c'est beaucoup d'abréviations, oikon apophugon hegemona hegesipu ekkerameon. L'usis, habitant du Pirée, s'étant libéré d'hegemon, fils d'hegesipos, du dème de kerameis. Puis le verbe de la consécration, assez naturellement, on avait cru pouvoir interpréter ces mentions de personnes libérées, hommes ou femmes, comme des actes d'affranchissement. On aurait donc affaire à d'anciens esclaves qui, s'étant affranchis de la tutelle de leur maître par le moyen d'un versement à la divinité, pratique était couramment pratiquée ailleurs. Mais Elisabeth Meyer montre que cette interprétation se heurte à des difficultés rédhibitoires. Avec de bons arguments, elle propose de voir dans ces personnes des métèques, métoïkoï, rédisant étrangers, ayant réussi à échapper à une poursuite judiciaire engagée par un particulier pour non-paiement de leur impôt spécifique, le metoikion, et selon une procédure normale en droit attique. Ce dossier n'a donc plus rien à voir avec l'affranchissement des esclaves, d'aucuns le regretteront peut-être. Il s'agit en réalité de personnes libres, dépourvues, il est vrai, de droits civiques, sauf la possibilité de qui leur est octroyé parfois d'acquérir terre et maison. Inutile de souligner l'intérêt de ce changement de perspective pour l'histoire sociale d'Athènes au IVe siècle. Mais ce qui doit nous retenir un instant ici, c'est la datation de ces stèles, placées assez vaguement jusqu'ici dans les années 330. Car l'auteur de l'étude montre que tout ce dossier doit en réalité être issu d'une loi conservée en partie sur le haut de la stèle principale, loi d'inventaire de toutes les ressources, justement de ces fiales consacrées, et elle a de bonnes raisons d'attribuer cette loi à Lycurgue en fonction d'un petit fragment, vous voyez ici, qu'elle restitue de diverses façons, une loi de Lycurgue. Quelle date ? Précisément en se référant à notre chronologie de 335-4. Une fois de plus, par conséquent, on constate que l'activité législative de Lycurgue n'a laissé aucune trace épigraphique, ni d'ailleurs historiographique, avant ce tournant, devenu membre du Conseil en 335-4. Lycurgue a dû manifester d'emblée sa volonté, sa capacité de réorganiser des pans entiers de la vie publique, en collaborant avec d'autres hommes politiques, galvanisés comme lui par les perspectives de renouveau qu'apportait la possibilité d'exploiter les ressources de l'Europie. On put ainsi songer à réorganiser en profondeur la formation des jeunes gens, c'est la fameuse loi sur les faibles, à préciser les modalités d'accès des étrangers naturalisés à la citoyenneté, c'est une loi sur les fratries, dont l'existence découle d'une modification introduite dès 334 dans les dossiers d'octroi à la Politeia, assurer de dignes récompenses aux plus méritants des bouleutes. Enfin et surtout, on fut amené à légiférer sur les cultes, dont celui d'Amphiaraos, on l'a vu il y a un instant, à donner plus d'éclat à la célébration des fêtes en l'honneur d'Athéna, la déesse tutélaire. Et c'est au lendemain des grandes panathénées pentétériques de l'été 334, alors que les réformes étaient déjà bien engagées sur plusieurs fronts et que la nouvelle du débarquement d'Alexandre en Asie paraissait, non sans raison, inaugurer une période de paix, que Lycurgue, ayant déjà donné, pendant une année, comme membre du Conseil, la preuve de ses talents d'administrateur, se vit confier pour 4 ans. Si mon hypothèse sur le début de la première pentatéride s'avère correcte, la responsabilité inédite d'une supervision générale des finances de l'État, la dioikesis ton krematon, en vue d'une répartition équilibrée, des revenus passablement augmentés depuis une année, justement, et des grandes dépenses à faire au théâtre et ailleurs. Et cela aux côtés, ne l'oublions pas, du très populaire Démade, l'artisan de la paix, dans un autre poste clé de l'administration financière. Il n'y a donc décidément plus aucune raison de faire commencer l'époque de Lycurgue, celle de Démade, en 338 déjà. C'est à l'automne 335 seulement que les Athéniens, remplis désormais d'espérance en l'avenir de leur cité, après 3 longues années d'expectatives, d'inquiétudes, de rivalités féroces à la tribune entre collaborationnistes avec la Macédoine et résistants à la royauté macédonienne, comme l'achève de mettre en évidence les nouveaux fragments de l'orateur Hypéride dans son contre Diondas, que les Athéniens, disais-je, sont entrés dans ce qu'il est convenu d'appeler l'époque hellénistique, à leur insu, bien entendu, et à notre insu également, jusqu'il y a fort peu de temps. Je vous remercie.